C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des biopics et des documentaires. Et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Camille Poignant.
Salut à tous, salut Thibaut, j'espère que vous aussi vous avez poncé les documentaires de Britney, Nabila, Orelsan, Kid Cudi. Il y a du lourd qui est sorti sur les plateformes de streaming et ça se ressent aussi sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est vrai que depuis un an à peu près, peut-être un an et demi, les documentaires qui retracent le parcours des chanteuses, chanteurs, artistes, influenceurs même, on va le voir, hein, foisonnent sur les plateformes de streaming. Dans le désordre, Lady Gaga, Taylor Swift, Big Flo Oli, Nekfeu, Orelsan, Angel, Nabila, Kid Cudi, etc. Ils ont tous sorti un biopic ou au moins un documentaire. Et concrètement, hein, ces derniers temps, il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau documentaire consacré à une artiste ou un artiste qui suscite illico l'impatience du public. Ça se passe évidemment sur toutes les plateformes de streaming, Netflix, Prime Video, etc. Ils s'y mettent à peu près tous. Pourquoi ? C'est la question ce matin. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est une œuvre artistique réellement ou est-ce que c'est un outil de communication ? On essaye de décrypter tout ça avec mon poteau Camille.
Alors, je ne vais pas te donner une réponse immédiate. Hein. En tout cas, ce qu'on sait, hein, c'est que les documentaires autour d'artistes, ben, ce n'est pas nouveau. Mais le changement là, qu'on a observé ces derniers mois, on va dire même cette dernière année, c'est les documentaires commandés par les artistes eux-mêmes qui ont été écrits en collaboration avec eux. Ils sont parfois directeurs artistiques même de ces documentaires. On sait que les réseaux sociaux, hein, ils ont rapproché les artistes de leur public avec tout ce qui est instantanéité des plateformes, rapidité de communication. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il leur fallait un nouveau format, un nouveau support de communication qui ramène plus de proximité et de storytelling.
Ouais, c'est vrai que historiquement, le biopic, c'était plutôt pour les morts. Hein. C'est vrai, boum, biopic sur tu vois, sur la princesse de Galles.
Et là t'apprends que Johnny est mort, merde.
Voilà, biopic c'était pour les morts normalement, hein. Aujourd'hui bah, les biopics c'est fait pour les artistes vivants qui sont en phase de promo. D'ailleurs on pourrait presque parler d'agiographie plutôt que biographie.
Ouh,
agiographie, alors voilà, pour les linguistes qui nous écoutent, la géographie en général, on pourrait imaginer que c'est une sorte de biographie excessivement élogieuse, hein. Une agiographie, c'est aussi, ça veut dire, c'est le récit des saints, tu sais, la géographie de Saint Paul, Saint Luc, Saint Joseph, etc. Mais ici, vraiment, on n'est pas sur des documentaires à charge, hein. On est vraiment sur un storytelling très documenté, très élogieux, on va dire.
Oui, avec plusieurs buts bien calibrés et qu'on voit clairement se dessiner dans les documentaires.
Et ouais, clairement, le docu, c'est devenu un moyen pour les artistes de renforcer leur storytelling. L'idée, c'est de... Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Hein, l'idée, c'est de proposer plus qu'un produit musical quand il s'agit d'artistes musicaux. On pense à Orelsan, on pense à Angel, hein, où il y a eu une concomitance de sortie entre leur documentaire et l'album. On rapporte de l'imagerie, on rapporte de l'univers, on ajoute beaucoup de storytelling additionnel à la proposition artistique qui initialement était exclusivement musicale. Et dans un monde, on va dire, ultra marketé comme le nôtre, les médias, ils s'intéressent quand même davantage aux artistes qui ont une vraie belle histoire qu'aux artistes qui ont un beau produit musical.
On voit que ces documentaires, ils ont vocation à créer un lien plus profond, à raconter une histoire plus longue autour de ces artistes. Hein. Si depuis 4 ans, la story sur les réseaux sociaux, elle s'est imposée comme un moyen de raconter les backstage de la vie des artistes. Elle forme cependant une histoire qui reste décousue, qui survit pas bien dans le temps, qui n'est pas ultra storytellée, à la manière du récit story qui est très instantané. Et ben, le documentaire, lui, nous emmène à la découverte de ses secrets, de ses chanteurs. On part souvent du début de leur histoire, des premiers pas. Donc, même s'il y a une vocation, peut-être on le verra, d'effet d'annonce ou commercial, en tout cas, on en profite aussi pour raconter plus de choses, toujours retour en faisant le parallèle avec la story, hein, ça permet de ne plus filmer uniquement à la première personne, mais là, le film, le documentaire, il va englober tout l'écosystème qu'il y a autour pour nous plonger vraiment dans son univers.
Et puis ce qui est flagrant, hein, c'est aussi que ce nouveau format, là, en tout cas ce format qui commence à s'imposer, hein, ça permet de créer un momentum, un moment idéal pour une activation. Une activation commerciale, hein, on ne va pas se leurrer.
Bien évidemment.
Comme par exemple un lancement d'album. Tout se passe un peu comme si dans une époque qui était noyée dans un océan d'images, on a des images dans tous les sens, etc. Le docu, ça devient un peu l'outil de promotion ultime, on va dire, hein, et qui permet aux artistes de se démarquer au milieu d'autres propositions. Si je fais simple, hein, on a une guerre à l'attention. Le biopic, ça permet de faire d'être davantage visible. Le biopic documentaire, il permet aussi de faire des RP, hein, donc d'être plus visible dans les médias traditionnels, de l'interview, de la télé, de la presse, etc. Le biopic, c'est aussi beaucoup de retombées social media. Le meilleur cas d'école, je trouve, c'est le documentaire d'Orelsan, hein, Montre jamais ça à personne. Je pense que c'est le case study par excellence. Hein. Pour rappel, Orelsan n'a pas sorti d'album depuis 2017. Voilà, 4 ans, c'est quand même sacrément long pour un artiste musical. Mais là, il y a ce coup de génie. Fin 2021, il revient sur le devant de la scène, d'abord dans un premier temps, avec un retour très orchestré autour d'un documentaire, qui s'appelle « Montre jamais à personne », qui a été tourné par son frère. On en a déjà parlé ici, hein, donc je vais faire assez bref là-dessus, et qui sert clairement de teasing avant un énorme reveal qui est celui d'un album qui s'appelle « Civilisation », qui arrive juste derrière, hein, vraiment juste derrière. Alors « Montre jamais ça à personne », si vous n'avez pas vu, évidemment, allez regarder, hein, ce docu qui vaut vraiment le coup. Je sais que tu l'as commencé.
Ouais.
Finis-le, parce que c'est vraiment intéressant. On suit, six épisodes de 30 minutes, si je dis pas
donc
de bêtises.
On est sur une petite web-série.
Micro-série, voilà.
Ouais, pas web.
Pas web, micro-série, où on revient, bien sûr, l'intégralité du parcours du rappeur normand, hein, depuis ses débuts, à travers une sorte d'immersion super intime, puisque c'est filmé par son frangin. Énorme carton. Je pense que ce qu'il faut retenir, hormis, évidemment, le format qui est super cool, c'est très intéressant. Si on est créateur de contenu, je pense que c'est très intéressant. On voit aussi beaucoup de coulisses autour de qu'est-ce que c'est créer du contenu, comment je peux aussi documenter pour ensuite créer du contenu, documenter durablement. Ça, c'est vraiment chouette. Après, ce qu'il faut quand même noter, c'est le carton énorme au moment de la sortie de ce documentaire, hein, et comment il a repropulsé Orelsan sur le devant de la scène. Sur les réseaux sociaux, ça a été massif. En RP, ça a été massif. On en a parlé de partout. Et clairement, Orelsan était, on va dire, sur un tapis rouge pour arriver avec son album juste derrière Civilisation.
Bah, c'est vrai que les artistes, hein, globalement, là, qu'on retrouve dans ce podcast-là, ils ont moins eu l'occasion, avec toutes ces périodes de confinement, de se mettre en avant, de participer à des émissions, d'avoir des concerts, d'avoir de la presse locale à ce moment-là. Donc il y a eu quand même moins d'exposition. Alors là, ils ont contrebalancé ce manque d'exposition aussi avec des trucs plus intimes, plus personnels, plus historiques.
Ouais, donc ça c'est un exemple, hein, effectivement, activation commerciale, hein, clairement, ça c'est l'utilité d'un documentaire. Mais peut-être pas ça, je pense qu'il y a un autre sujet autour du recyclage de contenu, c'est ce qu'on voit bien chez Orelsan, mais pas que, on le voit à peu près partout, hein. Le documentaire d'artiste, c'est clairement du recyclage de contenu et aussi un moyen de capitaliser sur la marque de l'artiste. Un exemple, fin 2021, Amazon Prime qui lance un documentaire d'artiste qui s'appelle A Man Named Scott. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un documentaire d'1h30 sur le rappeur Kid Cudi. Grosse prod à l'américaine avec défilé de stars très haut de gamme. Il y a Pharrell Williams, il y a Kanye West, etc. Le documentaire, bah, il raconte l'ascension de l'artiste et son rapport aussi à l'anxiété, à la dépression, hein, qui est un thème assez poussé chez Kid Cudi. Et ce que moi je trouve très intéressant, c'est qu'il recycle très habilement des centaines d'heures d'images glanées au cours de 10 ans de carrière de l'artiste. On retrouve là aussi un format comme sur Orelsan avec beaucoup d'images d'archives. Qu'est-ce qu'on a ? On a des footage backstage, on a des footage de tournée, tournée un peu à la caméra à l'arrache, parfois des captations qui ont déjà été utilisées à d'autres endroits, mais qu'on va ici ramener dans un récit. C'est un vrai travail de recyclage recyclage, pour nous, créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en ligne. Vos images, elles peuvent avoir plusieurs vies. Et une image qui serait très instantanée peut ensuite être réintégrée dans un storytelling. Ce docu, c'est aussi l'occasion pour l'artiste de s'offrir un joli plan promo, hein, forcément. Bien sûr. Sachant qu'il n'a pas d'album dans les bacs pour l'instant. Donc ça aussi, c'est intéressant. J'arrive avec un projet qui me permet d'être visible, d'occuper, on va dire, l'espace, alors que je n'ai pas d'album
en cours.
Oui, là,
c'est pas une activation pour un effet d'annonce.
Exactement. On l'a vu sur tous les plateaux de télé, sur tous les talk shows américains à la sortie de ce documentaire. Et encore une fois... ce docu-là, celui d'Orelsan, je trouve qu'il y a une leçon à tirer, c'est que il est préférable de documenter plutôt que de communiquer. Et je pense que ça, c'est ce qu'on voit très bien dans cette tendance autour des documentaires d'artistes, c'est que si je documente, si j'ai le réflexe de sortir la caméra, de faire de la photo, de documenter ce qui se passe dans ma vie, dans l'histoire de ma marque, eh bien, c'est autant d'occasions derrière de produire un contenu qui sera un vrai contenu de qualité. Alors que si je cherche à communiquer, eh bien je vais à un instant T me pencher sur le sujet et je vais manquer, je dirais, la vue d'ensemble.
Ouais, là, tu as une vraie vue d'ensemble. Alors, dans le cas d'Orelsan, c'était pas vraiment prévu, j'imagine, cette vue d'ensemble. Hein, c'est plus.
Je pense que si. Moi, je pense que c'était tout à fait prévu.
Longtemps filmé.
Depuis très longtemps, je pense qu'ils avaient prévu de faire ça. C'était documenté pour dire si un jour on en a besoin, on pourra produire ce documentaire-là. À quoi ça sert ces docus d'artistes, ces biopics? Ça sert aussi à renforcer le lien entre la marque et sa communauté. Ça, c'est évidemment, c'est un gros avantage pour ça. Et je pense qu'on a un bon cas d'école avec le documentaire de Big Flo et Oli, par exemple.
Ouais, alors le documentaire de Big Flo et Oli, qui s'est intitulé Presque Trop, qu'on retrouve sur Netflix, qui est sorti en novembre 2020. Alors lui, c'est pareil, c'était un peu un ovni. On n'était pas sur l'annonce d'un nouvel album. Au contraire, on était plutôt sur l'annonce d'une séparation, d'une pause momentanée. Le film, il se qualifie de documentaire musical intimiste. C'est un docu autour de la musique et ça revient dans l'intimité, c'est vrai. Il revient sur le parcours des deux gosses, vraiment tout petits, qui ont commencé dans la cour de l'école avec beaucoup d'images d'archives. Pour le coup, eux, je pense pas que c'était prévu. Il y a vraiment tout quand ils étaient vraiment gamins à la kermesse. Et ça sert, in fine, à annoncer leur retrait des scènes pendant quelques temps. On embarque avec eux dans les coulisses d'une grosse machine hein, qui est la prod de concert. On voit aussi ce côté torturé. Alors eux, c'est un binôme. C'est pas des jumeaux, mais presque. Et t'as le côté où il y en a un qui est à fond tout le temps, qui a donné toute sa vie pour ça. Et le deuxième, qui est plus torturé, qui a plus de difficultés, qui est plus dans l'écriture et dans la musique. Et au final, tu vois ce binôme qui évolue. Il y a même un moment où tu vas préférer l'un, tu vas en avoir un peu marre de l'autre qui est tout le temps en train de faire des simagrées.
Oui, le storytelling est bien posé et c'est aussi l'occasion, ce format long pour eux, de continuer à définir les deux personnages.
Ouais, c'est ça. De vraiment montrer, et j'imagine même, je me suis posé la question, est-ce qu'à un moment ils vont se séparer, ils vont faire une carrière solo? En tout cas, tu as vraiment deux personnes très distinctes qui se réunissent, puisqu'on a des moments de scène, on a un historique de scène, et qui nous emmènent jusqu'à leur dernier concert. Donc là, tu les vois vraiment franchir la porte du dernier concert. À la fin...
Le Zénith de Toulouse sous la pluie.
Exactement. Voilà. Et à la fin, ils se séparent avec une belle image dans un champ.
Moi, je l'ai vu aussi, ce docu. Déjà, franchement, il est très bien produit. Monté, en tout cas. C'est vraiment assez cool. C'est vrai que moi, j'écoute pas Big Flo et Oli. Pour autant, je les ai trouvés extrêmement attachants, etc. Et je trouve aussi ce que raconte très bien ce documentaire, c'est le lien entre la marque et ses communautés. On le sait, Big Flo et Oli, c'est une marque, tu vois. Ce sont des artistes qui sont extrêmement digitalisés, qui sont extrêmement social media et qui ont des communautés extrêmement fortes autour de ça. Je suis certain que cet objet documentaire, il a permis encore davantage de renforcer le lien.
Ouais, et d'ailleurs, tiens, tu parles de social media, hein, ce qui s'est passé donc je m'en rappelle, à l'époque je suivais aussi ce qui se passait sur leurs actus. Ils sont disque de diamant, donc là on était en octobre 2020, début octobre. Juste après, ils annoncent la sortie d'un documentaire Netflix hein, qui s'est plus ou moins fait dans le secret. On savait qu'il allait avoir un documentaire, mais on connaissait pas l'objet de tout ça. Ils étaient encore en train de tourner. C'est sorti. Et puis, une semaine après, tu as cette grosse grille, ce visuel full grille Insta qui dit à bientôt. Et là, ça fait un an que ça dure. Alors, on a parfois quelques petites stories, mais en tout cas, ça s'est vraiment coupé à ce moment-là. Et 5 postes après, il n'y avait plus rien. Quoi. Donc, c'est assez ouf. L'effet d'annonce, l'effet de surprise, surtout que ça a apporté.
Bah voilà, ça c'est un exemple. À quoi ça sert aussi un documentaire d'artiste, un biopic? Ça sert sans doute, je pense, à rapporter du temps long dans une expérience de marque qui tend à être de plus en plus snackable. Snackable, micro-contenu social media, hein, c'est quand même l'ère dans laquelle on vit. Et là aussi, hein, pareil, analogie avec d'autres marques, hein, d'autres industries que celle artistique. Oui, on a aussi besoin de travailler, d'étudier, de concevoir des formats temps longs pour éviter que la marque soit réduite à des contenus très snackables pour apporter de l'additionnel. Et je trouve que un très bon exemple, c'est ce documentaire qui a été dévoilé par Prime Video, donc Amazon, fin 2021, tout à la fin 2021, une série documentaire sur la vie de la célébrité Nabila. Voilà, 7 épisodes de 30 minutes. Ça s'appelle Sans filtre. C'est le nom de cette série, Nabila sans filtre. Et Nabila, c'est vraiment la reine du snack content. Oui. Le fameux non mais allô quoi, c'est presque elle qui a inventé le genre, on va dire, vraiment la catchphrase qui se transforme en mème, etc. Ça c'était en 2013, hein, non mais allô quoi, on en parle encore aujourd'hui, donc c'est quand même dingue. Et aujourd'hui, Nabila, bah, c'est une marque extrêmement puissante, c'est 6,6 millions de followers sur les réseaux sociaux, je sais pas si on se rend
c'est
bien
monstrueux.
Compte. C'est énormissime. On a souvent dit, hein, que c'est la Kim Kardashian française. Bah, c'est assez vrai, hein, finalement. Ouais. C'est aussi une marque de cosmétiques. Hein. C'est 30 personnes salariées de Nabila. C'est vraiment très, très solide. Et c'est un vrai... Il y a un moment dans le documentaire, je trouve, qui est marrant. Nabila, qui est quand même une déesse de la catchphrase. Hein. Elle devrait être conceptrice-rédactrice. Si elle n'était pas à la tête d'un petit empire, elle devrait être conceptrice-rédactrice dans une agence. Parce qu'elle balance... Alors, il y a Martine à la plage et il y a Nabila à la conquête du monde. Je trouve que c'est vraiment bien dit. Et d'ailleurs, dans son docu Prime Video, eh bien, les équipes de Nabila, puisque c'est produit par les équipes de Nabila, hein, travaillent vraiment la marque avec beaucoup d'intelligence. On sent qu'il y a un vrai gros travail de repositionnement de la marque Nabila. Ce qu'il faut retenir, le storytelling, c'est Nabila, c'est une entrepreneuse à succès, c'est une boss lady qui veut conquérir le monde. Et en produisant comme ça ce format long, ils ont la capacité justement de s'extraire du snackable content, de rapporter du storytelling, de construire un argumentaire, de faire une preuve de concept, de dire cette influenceuse-là, c'est une business lady. C'est ça qu'il va falloir retenir. Et puis, il faut aussi retenir autre chose. C'est que cette catchphrase, non mais allô quoi, c'était en 2013. C'était il y a bientôt 10 ans. C'est difficile de garder une marque aussi puissante pendant 10 ans si elle ne repose que sur des coups d'éclat, du snackable content. On a aussi besoin, quand on est une marque, d'avoir un contenu long format, plus clever, plus mature, avec plus de valeur qui permet de durer dans le temps. Et c'est peut-être aussi ce que souhaitent faire les équipes de Nabila, continuer à construire cette marque.
Bah après, je n'ai pas suivi l'histoire de Nabila depuis 10 ans, mais quand tu parles de repositionnement, je suis à peu près certain que ça a eu lieu depuis 10 ans. Sans arrêt, un repositionnement vers quelqu'un de plus intelligent, excuse-moi Nabila, de plus populaire, de plus médiatique, de plus entrepreneuse. Et aujourd'hui, c'est clair, ils arrivent à une très belle image, hein, avec une belle réalisation autour de ça.
Un docu... d'artistes, un biopic, ça sert aussi, c'est peut-être aussi l'opportunité de toucher un public différent et d'élargir ses audiences. Je pense que ça a été clairement le cas sur Orelsan, en tout cas ça a été un des effets bénéfiques, un certain nombre de gens qui avaient oublié l'artiste ou tout simplement qui ne le connaissaient pas ou avaient des a priori dessus, ont découvert l'artiste sous un angle nouveau. C'est aussi clairement le cas de ce biopic, de ce documentaire produit par les équipes d'Angèle.
Ouais, alors Angèle, là, il y a plein de trucs, on y voit beaucoup de causes dans ce documentaire, hein. Donc le documentaire Netflix qui est sorti tout début décembre, pour moi, il sert vraiment plusieurs causes. Déjà, il nous embarque, hein, dans son quotidien de chanteuse rêveuse, il nous plonge dans son histoire, dans son enfance. Ça, on va dire, c'est le point.
T'as aimé ou pas?
Bah moi, j'ai assez bien aimé.
Je sais que quelqu'un t'a un peu forcé la main pour que tu puisses le regarder.
Ma chérie aime beaucoup. Elle m'a dit, ça serait vraiment bien qu'on le regarde. J'ai un peu traîné des pieds et une fois dedans, j'ai beaucoup aimé. Il nous emmène, donc le point de départ, c'est toujours son histoire, les différents problèmes qu'elle a eu dans sa vie. Il nous permet d'apporter de l'inédit, hein, autour de la création de son dernier album, pour bien préparer la sortie, qui sortait une dizaine de jours, comme Orelsan, bien calculé, juste après le documentaire. Et puis ce qu'elle a ici aussi, quand tu dis disais, besoin de créer du lien avec des audiences plus larges. Elle a aussi besoin d'apporter de elle l'annonçait, elle a besoin donc d'apporter de l'inédit. Elle annonçait comme très personnelle et assez déconnectée de ce qu'elle faisait avant. Donc là, elle avait besoin déjà d'assurer et de rassurer sa base de fans sur le contenu. C'était toujours moi, c'est toujours cette petite fille un peu rêveuse, un peu folle. Mais à la fois, j'ai grandi, il y a eu le confinement, j'essaye de toucher des choses qui me tiennent plus à cœur, des choses plus larges, je montre ma famille. Donc là, elle se positionne quand même comme une fille beaucoup plus mature, qui parle beaucoup plus de la famille, qui va moins toucher son premier public, mais rassurez-vous, je suis toujours pareil. Et ce moyen pour elle de renouer avec le grand public après une période de confinement pas facile, après une année blanche. Donc, tu as tout ça qui se mélange. Retour avec ses fans de base, conquérir un nouveau public.
Du coup, est-ce que tu as acheté le nouvel album Bruxelles en vinyle?
Alors déjà, il s'appelle pas Bruxelles, il s'appelle 95. Ah, et pardon, je lui ai ça, offert en vinyle avec une place de concert. Voilà. En tout cas, ce qu'on voit, ouais, c'est qu'après énormément de choses qui ne sont pas passées pendant ces 12 derniers mois, bah, ils ont besoin de renouer, de se rassurer et puis de se trouver un nouveau territoire d'expression.
Ouais, et c'est aussi dans le cas d'Angèle, là aussi, le format long, il permet à l'artiste de revenir, peut-être de mettre des points sur les i, ou en tout cas de régler un certain nombre de compte. Je sais qu'il y a une séquence qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux dans laquelle elle explique comment Hanouna lui a volé son coming out. Elle n'avait pas d'autre option, on va dire, pour le dire, ça clairement, dire avec ses mots de façon très maîtrisée. Donc on le sait, hein, ces formats-là, c'est très intéressant, je trouve, de voir comment ce format documentaire biopic, bah oui, c'est un outil de communication, voilà, de commercial, on va dire, mais c'est aussi un outil de repositionnement, de storytelling. C'est aussi un outil qui permet, avec ce temps long là, comme ça, de continuer à construire la marque et puis de renforcer les liens avec ses audiences.
Et on voit, on est vraiment dans l'intimité, je trouve, avec Angèle, presque même encore plus, vraiment dans la sensibilité. Et moi, cette histoire de Hanouna, là, j'ai trouvé ça touchant parce que globalement, elle s'en foutait d'annoncer son coming out, mais juste, elle voulait le dire à sa grand-mère en premier. Et c'est juste ça qui lui a été volé, ça l'a fait bien chier. Voilà, bon.
Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce format, hein, ce genre là qui est en train de s'imposer. Mon petit doigt me dit qu'en 2022, on va en voir d'autres. Alors qui sera les premiers?
Trop tard, peut-être,
qui seront les premiers? Pas nous. Nous, je vous avoue que Super Natif, là, le Super Daily, on n'a pas assez documenté. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, hein. Documenter la vie de votre marque, documenter, y compris les moments compliqués, etc. Vous pourrez toujours ramener ça dans un story. La bobine, ça coûte pas cher actuellement, faites des images.
Non mais c'est cool, vraiment c'est un beau format, allez-y.
Les amis, merci à vous tous d'écouter le Super Daily. Vous êtes super nombreux chaque matin à nous écouter en podcast. Merci pour ça si vous êtes sur Apple Podcast, si vous êtes sur Spotify. On compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles ce matin. Et puis un petit commentaire, tiens, ça nous ferait très plaisir. Vous nous écoutez aussi en direct sur Twitter Spaces. Vous nous regardez sur Twitch. Merci à vous, c'est précieux ce moment avec vous en direct. Et puis évidemment, si vous voulez continuer à échanger avec nous de ce sujet, les biopics, les documentaires, on serait très heureux de continuer la conversation sur les réseaux sociaux @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok, où vous êtes, nous y sommes. Et Thibaut, est-ce qu'on en profite aussi pour dire qu'on recrute peut-être ?
On recrute ? Oui, bien sûr, on en profite carrément. On recrute en ce moment, les amis. On est à la recherche de social media managers. Voilà, on veut des bons, on veut les meilleurs de France, qu'on soit clair, de Belgique aussi. Hein. Vous êtes les bienvenus, de Suisse, voilà, à peu près partout. Mais en tout cas, francophone, merci à vous et vous balancez job à Supernatif.
Voilà.
Job à Supernatif.
On vous dit pas à demain parce que vous allez passer un bon week-end, mais on vous dit à lundi.
Salut à tous, on vous embrasse.
Ciao. Allez, bye. Ciao.